Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir noté le rendez-vous que l'on vous donne chaque mercredi à 21h sur Radion. Voici donc Wagon Livre, votre magazine littéraire. Littérature et histoire de France s'enchevêtrent admirablement dans le roman dont il va être question dans notre rendez-vous ce soir. Henriette Landry, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être devant notre micro. Je vais vous présenter aux auditrices et auditeurs. Vous êtes née dans l'Yonne, vous êtes née à Crin. Vous avez passé votre enfance dans un petit village du Migennois à Épinaux-les-Vauves. Vous avez fait l'école normale à Auxerre, vous avez été étudiante à Dijon et vous avez enseigné en primaire, en collège et également en lycée. Vous résidez aujourd'hui à Cosne-sur-Loire, vous êtes retraitée et vous passez, je pense, des jours heureux là-bas dans la Nièvre, Henriette Landry.
Bien sûr, la Nièvre est un si joli pays.
Alors, votre premier roman, vous avez fait paraître aux éditions de Boré, donc votre premier roman intitulé « Les sarments d'amour ». Ensuite, en 2009, aux éditions Alan Sutton, vous avez fait paraître « Les feux de Brandon ». Et puis, en 2010, le roman dont nous allons parler ce soir, « Mathias, le Lorrain », là, qui est un roman auto-édité. Et puis, vous avez, l'an dernier, en 2011, fait paraître un roman psychologique qui a pour titre « La fille du puits ». Et puis, vous êtes en train d'écrire un livre qui va sortir en juin prochain et qui aura pour titre « Les trois moustiquaires ». C'est bien cela, Henriette Landry?
Eh bien, il n'y a pas d'erreur. Vous avez bien fait mon parcours et je vous en remercie.
Alors, parlons de Mathias le Lorrain. Nos auditrices et auditeurs vont se demander qui est ce Mathias le Lorrain. Eh bien, Mathias, c'est le prénom de votre grand-père.
C'est ça.
Qui est un Lorrain. Alors, il est né donc dans un petit village de Lorraine en 1861 et votre grand-père est mort en 1938.
Oui.
Et alors, c'est extraordinaire parce que votre roman est captivant. Non seulement vous vous replongez dans l'histoire familiale à travers la figure emblématique de cet homme admirable et courageux,
oui,
qui était donc votre grand-père,
mon grand-père,
qui s'appelait Mathias Engler, comment doit-on
dire ? Engler.
Mathias Engler. Alors, parlez-nous de ce grand-père que vous avez un petit peu connu. Il meurt en 1938, alors que vous êtes une fillette de 7 ans et demi, 8 ans.
Oui, c'est ça.
Quel souvenir avez-vous de ce grand-père?
Eh bien, j'ai retenu de mon grand-père que c'était un patriote acharné, qui a passé sa vie à perpétuer le souvenir de son village natal qui était Bervillers en Moselle.
Alors, ses parents sont Zabette et Thiassin.
Et Thiassin.
Qui sont vos arrière-grands-parents.
C'est ça. Mais on les appelait Thiassin. En principe, mon arrière-grand-père s'appelait aussi Mathias. C'était la tradition villageoise. On donnait le nom de l'enfant, le nom du père. Mais justement, on a déformé pour retrouver un peu d'équilibre dans la famille. On l'a appelé le Thiassin. C'était un surnom qu'on lui avait donné, mais son vrai nom, c'est Mathias, son vrai prénom. Voilà.
Alors, dans votre roman, justement, le début de votre roman, dont je rappelle le titre, Mathias le Lorrain, l'action se situe dans cette Lorraine qui est française à,
oui,
ce moment-là.
À l'époque.
Quelques années avant que, eh bien justement, on ne, oui, perde l'Alsace et la Lorraine,
ouais,
suite à la guerre de 70,
oui,
guerre imprudemment menée par Napoléon III contre, j'allais dire, l'ennemi héréditaire, le Prussien. Et Mathias, il veut lire notamment un auteur mosellan bien connu qui est Chatrian.
Oui, Erckmann Chatrian.
Erckmann Chatrian.
Ils sont deux, Erckmann,
exact,
et Chatrian, et qui avaient publié le conscrit de 1813. Ils ont publié le tour du monde par deux enfants. Alors, il était mon grand-père qui avait été peu... à l'école, il avait peu fréquenté l'école, mais il était passionné par la littérature et par la culture.
Votre grand-père savait lire et écrire, ce qui n'était pas le cas des filles
à
l'époque.
Oui, et j'ai encore à la maison des écrits de lui, et je vous assure, une belle écriture penchée, comme on en faisait autrefois, et sans faute d'orthographe.
Oui, alors, l'orthographe aujourd'hui, mon Dieu,
c'est
une catastrophe.
C'est une discipline un petit peu abandonnée, hein. Voilà.
Vous faites ressurgir dans votre roman cette vie rurale, cette vie rustique et simple, oui. Où les gens semblent heureux sans avoir de superflu autour d'eux.
Oui, ben c'est ça, parce qu'on se contentait de peu. On faisait son bonheur des petites choses quotidiennes. Hein. La vache avait produit 3 litres de lait de plus que la semaine d'avant, on était content. Hein. Les poules couvaient et on était heureux de les voir couver. Et on était heureux de voir la nichée de poussins arriver. Voilà. Et les canards, dans leur canardière, animaient la cour.
Henriette Landry, pensez-vous que votre grand-père, Mathias, a eu une enfance heureuse ?
Oui. Peut-être pas riche, mais heureuse. Heureuse parce qu'on vivait en famille. Et son papa, donc mon arrière-grand-père, était un monsieur très cultivé.
Peut-être vais-je vous faire rougir,
oui.
Mais je trouve que vous avez un talent extraordinaire à nous expliquer, pour nous, en ce début de 21e siècle, de quelle manière vivaient nos ancêtres dans les années 1860, 1870. On coule la lessive dans le cuveau.
Oui.
Et alors surtout, dans cette Lorraine natale de votre grand-père, Mathias Engler, on file le chanvre.
Oui.
Alors, et là aussi, vous montrez bien que les paysans lorrains ont été victimes de l'industrialisation.
Ben oui, les premières filatures industrielles ont ruiné le commerce artisanal. Ma grand-mère qui allait vendre son chanvre sur les marchés, au moment des filatures industrielles, elle n'en vendait presque plus. Ça a été dépassé. Ça a été un peu comme les soyeux de Lyon, ça a été la même chose. C'était une époque où les premières filatures industrielles ont ruiné l'économie domestique. Parce que c'était une économie domestique. Dans presque chaque foyer de paysans, il y avait un métier à tisser.
Vous avez dit précédemment que votre grand-père, Mathias Engler, avait eu accès un petit peu à la lecture, il était curieux et il avait le goût de la littérature. Peut-être avait-il aussi besoin de s'évader un peu. Dans votre roman, je vous cite Henriette Landry, vous écrivez « Les livres nous consolent de toutes les difficultés de nos jours
».
Est-ce que les livres vous consolent, vous, Henriette Landry ?
Oui, ils m'ont beaucoup consolé. Ils m'ont beaucoup consolé quand j'ai fait mon métier. À chaque fois que je me penchais sur un Balzac ou sur un Flaubert, eh bien, ça me faisait oublier des fois les difficultés de ma vie présente.
Et aujourd'hui, vous en écrivez les livres ?
Et aujourd'hui, j'en écris. C'est un peu une thérapie parce que depuis que je suis seule, que mon mari est parti, c'est une thérapie pour moi d'écrire. L'instant de mon écriture, c'est une évasion.
Nous allons nous séparer quelques minutes, le temps pour nous, si vous le voulez bien, Henriette Landry, donc de faire une première pause musicale. On se retrouve d'ici quelques minutes et je rappelle que vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous parlons ce soir du roman de notre invité, Mathias Le Lorrain, signé Henriette Landry.
Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau l'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demain. Ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Radion. Henriette Landry, vous êtes notre invitée. Nous parlons de votre roman, Mathias le Lorrain. Nous avons donc placé le décor. Hein. Il s'agit donc, bien sûr, d'une fiction, mais très fortement influencée par le parcours de votre grand-père, Mathias. Et alors, la famille Anglaire va quitter la Lorraine parce que, effectivement, elle n'a pas vraiment le choix, le travail manque, on quitte la campagne, c'est l'époque de l'exode rural, hein, où le travail se trouve dans les usines en ville. Et alors, Mathias suit ses parents à la capitale, où là, il va occuper un emploi de boutonnier.
Oui, c'est ça, il a été boutonnier. Il fabriquait des boutons, il fabriquait les boutons de nacre, parce que c'était l'époque où les vêtements demandaient beaucoup de boutons. Et il était dans le quartier du Faubourg Saint-Honoré, où il y avait beaucoup de maisons de vêtements, et les demandes étaient très nombreuses. Et alors, on fabriquait surtout les boutons à partir de la nacre. Et alors, ça demandait un travail considérable. Il fallait déjà trier la nacre, il fallait ensuite faire le bouton, ensuite le percer, ensuite le mettre dans un bain de décapage pour enlever tous les déchets, et ensuite le mettre sur carton pour le vendre. Et ils en vendaient beaucoup.
Lorsque vous dites que Mathias et ses parents occupent un logement rue Ménilmontant dans le 11e arrondissement, oui, de Paris, ce sont des indications authentiques ?
Authentiques. Mon papa est né rue Ménilmontant, impasse Ménilmontant, dans le 11e.
Alors j'aimerais que vous expliquiez ce que signifie un déménagement à la cloche de bois.
Alors à la cloche de bois, ben parce que on disait la définition fait partie de certains dictionnaires. Hein. Quand on n'avait pas d'argent, bon, on quittait le logement de nuit. On se faisait aider par les voisins, on déménageait les quatre pauvres choses que l'on avait, et on s'en allait, on allait occuper un autre logement qu'on avait trouvé dans l'intervalle. Et du fait qu'on était parti de nuit, on n'était plus redevable de son loyer. Et alors on disait à la cloche de bois, parce qu'on disait, la cloche de bois ne sonne pas. Si on avait pris une cloche en bronze, tout le monde, les voisins auraient été au courant du déménagement. Mais là, c'était la cloche de bois, donc motus.
Extraordinaire votre roman, parce que vous décrivez le Paris de Napoléon III, le Paris du baron Haussmann, un, oui, Paris totalement renouvelé, transformé, embelli, il faut le dire.
Ah oui, ça a été quand même à la gloire du baron Haussmann d'avoir amélioré Paris. Quand on voit la rue de l'Impératrice, elle était d'une largeur considérable. Tout Paris avait changé. Il y avait même des cabinets d'aisance dans tous les coins de Paris. Alors qu'avant, c'était le Paris des pauvres, le Paris moyenâgeux, le Paris médiéval qui subsistait. Et c'est Napoléon III, c'est à sa gloire quand même, il n'a pas eu toutes les gloires, mais celle-ci il l'a eue, il a voulu améliorer la vie parisienne. Et c'est à sa gloire à lui, puis peut-être aussi à la gloire d'Eugénie de Montijo, qui était son épouse et qui avait une grosse influence sur lui.
C'est l'époque où les hommes boivent l'absinthe. Oh. Et puis, alors, dans le roman, il y a une scène où la famille se promène, je ne sais plus dans quel parc parisien, et ils croisent une vendeuse de coco.
Ah,
qu'est-ce
oui?
que donc ce coco?
Alors, le coco, c'était pas difficile. C'était une boisson qui était faite à partir d'eau et de poudre d'anis. C'était de la poudre. Et alors, cette petite poudre jaune qu'on délayait dans l'eau. Et puis, mon Dieu, ça avait un peu le goût du pastis, mais il n'y avait pas un poil d'alcool.
C'est une époque aussi où dans les rues de Paris, il y a des affiches pour une femme magnifique que
oui.
les hommes adulent, c'est Sarah
oui,
Bernhardt.
Ben oui. Ben oui, parce que le Parisien a toujours été ainsi fait. Il appréciait la gente féminine beaucoup. Et à chaque fois qu'on rencontrait une belle fille, eh bien, mon Dieu, on en faisait son bonheur.
Bonheur quand on rencontre une belle fille, mais malheur quand on tire le mauvais numéro lorsqu'il s'agit du service militaire. Et Mathias, votre
oui.
grand-père, n'a apparemment vraiment pas eu de chance.
Non, il a tiré le mauvais numéro.
Je crois qu'il a tiré le numéro 19.
Oui, et il s'en est rappelé toute sa vie. Parce que pour lui, s'il avait tiré le bon numéro, sa vie aurait changé du tout au tout. Alors il aurait pu, comme c'était la tradition, acheter la place d'un autre, ça se faisait.
Mais avait-il seulement les moyens?
Mais il n'avait pas les moyens. Donc il avait son copain, par exemple, de régiment, qui lui avait eu les moyens, mais le père avait refusé, parce qu'il prétendait que le service militaire était un passage obligé dans la vie d'un homme. Mais enfin, des services militaires qui duraient 5 ans, c'était long.
Effectivement, comme vous le dites, Henriette Landry, 5 ans de service militaire et malheureusement, éclate la guerre de 1870.
Ah, oui.
Alors un véritable désastre pour la France.
Ah oui.
Et pour la Lorraine et l'Alsace.
Et ben oui, bien sûr, en Alsace, il y a eu Wissembourg déjà, hein, la bataille de Wissembourg, il y a eu la bataille de la Lauter, il y a eu toutes les suites de la guerre, il y a eu Bazeille, vous avez entendu parler de Bazeille avec cette maison de la dernière cartouche.
Et la, puis maison, la maison Bourgerie.
Bourgerie, on l'a appelée la maison, elle est toujours à l'heure actuelle intitulée la maison de la dernière cartouche. Parce qu'ils s'étaient retranchés, bon, et puis ils s'étaient battus jusqu'à la fin de leur vie. Hein, ils se sont battus jusqu'au bout. C'était cette tradition où la patrie comptait beaucoup.
Oui. Il y avait l'honneur.
L'honneur.
De cette oui. carrière des armes. Et pourtant, nos soldats français, en termes de tenue, au niveau des couleurs, c'est vraiment pas idéal. Alors, ils ont le képi, tunique bleue, et alors pantalon rouge.
Pantalon rouge. Ils étaient forcément vus de tous les coins, de toutes les directions. Ils ne pouvaient pas passer une minute inaperçus. Et ça a fait du tort. Et puis alors, ils n'étaient pas armés comme il fallait.
Alors, Henriette Landry, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez lire, justement, les pages 82 et 83 à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît.
Eh bien, mon Dieu, je vais essayer. Mais les casques à pointe allemands et les casques à chenilles bavarois formaient la merveilleuse machine de l'armée prussienne, si bien huilée, si bien entraînée, et qui a prouvé sa valeur à Sadova. Sans crier gare, et fort de ses 140 000 hommes, le Kronprinz attaque non loin de la frontière. C'est le matin du 4 août. La pluie de fer commence. 3 corps d'armées allemands viennent livrer la bataille du Gesberg. C'est Wissembourg. La Lauter, ce joli fleuve qui, sur 82 kilomètres, murmure entre la France et l'Allemagne, se transforme vite en un fleuve de sang. Les Prussiens brûlent les femmes, les fermes, saccagent les habitations, fusille tout ce qui bouge. Le pauvre paysan qui ose défendre son fenil ou son carré de Mirabelle, tout comme celui qui se terre, apeuré dans sa houblonnière. La tunique bleu sombre du Saxon n'épargne rien. Une averse d'obus traverse le ciel, maintenant devenu ténèbres. Dans un bruit assourdissant, dans une déflagration continue que la culasse des calons croupes provoque sans aucune interruption, les soldats français se battent avec courage. Braves et résolus, ils iront jusqu'au bout de tous les sacrifices. À leur tête, Abel Doué, qui se voulait mort ou victorieux. Mais hélas, victorieux, il ne l'est pas. À 10 heures, la canonnade redouble. À 11 heures, il périt au milieu de ses soldats. La mort au combat, la mort au champ d'honneur, qui transforme la vie en destin. La mort qui fait de ce général valeureux un héros immortel. L'assaut final lui sera épargné. À 15 heures, le déluge de feu a raison de la résistance française. C'est la défaite. Sous les étoiles de ce ciel doux, le jour agonise. Dans un lacet de la Lotaire, un barrage s'est formé. Amoncellement de corps que la paisible rivière n'a pas eu la force de charrier. La force ou le courage. Corps mêlés de Prussiens et de Français ensevelis dans le même linceul. Hommes jeunes, si bien faits pour vivre et que la mort inexorable emporte sur l'autre rive. Lothaire aux armes géants. Lothaire aux frênes feuillus, qu'as-tu fait de tes soldats ?
Merci Henriette Landry. C'est donc un extrait de votre roman, oui. Mathias Lelorin. On va faire, si vous le voulez bien, une nouvelle petite pause musicale. Et alors, on va écouter une chanson d'Yves Montand. C'est un poème que vous mentionnez dans votre roman, un poème de Rimbaud qui dénonce l'absurdité et l'horreur de la guerre. C'est le Dormeur du Val, donc interprété par Yves Montand.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il était tendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son l'hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Il a deux trous rouges au corps.
Toujours à l'écoute de Radion, à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ce soir en compagnie d'Henriette Landry. Elle est notre invitée pour son roman Mathias le Lorrain, roman qui nous replonge dans l'histoire de France, une page douloureuse, la guerre de 1870. Et puis, évidemment, à la manière un petit peu d'ailleurs de Stendhal, vous nous amenez sur les champs de bataille. Vous, en écrivant ce roman, Henriette Landry, vous avez voulu, me semble-t-il, dénoncer la barbarie et les atrocités des guerres, quelles qu'elles soient.
Ben oui, quelles qu'elles soient, et malheureusement qui ont encore lieu.
Parce que Mathias a connu la guerre de 70,
oui.
La guerre de 14,
oui.
Et... il meurt en 1938 au moment de l'Anschluss, mais
oui.
Il aurait presque pu connaître la guerre de 39.
Oui, oui, eh bien, mon grand-père donc, qui a connu Sedan, qui a souffert de la guerre, a aussi souffert de la guerre de 14, puisqu'il y a laissé deux de ses fils, un qui est mort à Verdun, et le deuxième qui est mort gazé, Nicolas, qui est mort quelques mois après, gazé par l'hypérite. Alors c'était un désastre, c'était une catastrophe, c'était une vie interrompue.
Votre grand-père a-t-il vu l'empereur Napoléon III hisser le drapeau blanc ?
Je ne sais pas.
C'est romanesque.
Voilà,
c'est
ce oui. Je l'ai dit, mais il l'a sûrement, lui, pas vu. De toute façon, vous savez, les soldats qui combattaient depuis tant de jours étaient tellement usés que je me demande s'ils pouvaient encore voir quelque chose.
Alors, Marc Mahon est blessé, 80 000 prisonniers. Et alors, ce qui est formidable, il y a le souffle de l'histoire dans votre roman. Vraiment, je l'ai lu avec un bonheur.
Oui.
Et puis, il y a, même s'il y a des atrocités, du sang, il y a beaucoup de poésie dans ce que vous écrivez. Surtout lorsque vous décrivez la nature lorraine. Mais par exemple, juste cette phrase qui est de vous, Henriette Landry,
oui.
Et que je trouve admirable. C'est la pleine lune, une lune perfide qui vernit les toits et qui semble argenter les pavés pour mieux faire glisser les chevaux et les hommes. Ça, c'est
oui.
Très beau. Et plus loin, c'est dans un passage où vous parlez de la semaine sanglante. Terrible semaine, on en reparlera. Vous parlez des balles et vous utilisez cette métaphore. Les balles, ces abeilles de plomb et de mort. Quelle jolie trouvaille. Alors, défile un très grand nombre de personnages historiques. Hein. C'est une véritable galerie de personnages historiques. Il y a Gambetta qui quitte la capitale en ballon. Il y a Eugène Potier, Trochu, Jean Richepin. Il y a le comte de Lille, Victor Hugo.
Victor Hugo, oh.
Vous avez eu, on a l'impression en vous lisant Henriette Landry, vous avez eu un vrai plaisir à pouvoir citer
tous ces noms,
auteurs.
Y compris Courbet.
Et Gustave Courbet. Qui a été condamné parce que la colonne Vendôme a été abattue.
Parce que Gustave Courbet a suscité
oui.
L'abolition de la colonne Vendôme. C'est lui qui a encouragé le peuple à la démolir. Et alors, quand les hostilités ont été terminées, il a été condamné à rembourser la réédification de la colonne Vendôme. Mais vous savez, Courbet était plus malin que ça. On ne l'a pas retrouvé.
Alors,
il a disparu.
Paris va être assiégé. 133 jours
oui.
De siège. Et alors, un des plus beaux bâtiments de l'époque, la Comédie Française, est un vaste hôpital.
Oui, oui. Et les sœurs, les bonnes sœurs de l'époque, faisaient de la charpie. Voilà, la charpie avec des vieux linges, vous savez, on faisait de la charpie pour mettre sur les plaies. Ça remplaçait nos gaz hydrophiles, ça remplaçait tout ce que l'on a aujourd'hui. Et paraît-il qu'à l'époque, c'était un très bon médicament. Mais il était indispensable.
Ce qui est terrible, c'est que les Parisiens sont encerclés par les troupes prussiennes. On mange les chats, on mange du rat. Et alors, épisode terrible que vous racontez dans votre roman.
Les éléphants du jardin d'acclimatation.
Absolument.
C'est vrai. Et les gazelles. J'ai cité les éléphants, mais j'aurais pu citer tous les autres animaux qui ont été détruits, justement, pour alimenter le peuple de Paris.
Et alors, l'hiver est rigoureux. Noël 1870,
moins
dans votre
20
roman,
degrés. Moins 20 degrés. Et alors, une épidémie de pneumonie. Et alors, l'absinthe. L'absinthe qui régnait en maîtresse dans la ville de Paris. Les hommes buvaient. Les hommes s'étaient mis à boire. découragé par les événements, écœuré par la société, les hommes s'étaient mis à boire. Et alors, ça créait dans Paris un climat absolument épouvantable, quoi. Les enfants mouraient, hein, beaucoup. C'est incroyable le nombre d'enfants qui sont morts de la pneumonie dans l'hiver 70-71.
Évidemment, la France est vaincue.
Oui.
La Prusse triomphe. Et alors, que se passe-t-il alors à Paris? Comment germe la Commune?
Tout le gouvernement s'est sauvé en Versailles. Alors, on a dit, les Parisiens qui étaient toujours patriotes, on dit, nous, on va faire un contre-gouvernement parisien. Et c'était là, la commune, beaucoup de personnes se demandent ce que veut dire le mot la commune. C'était cette communauté qu'on avait envie de créer dans Paris pour redonner un peu confiance aux Parisiens.
Et on sent que si vous aviez vécu à l'époque, vous auriez été aux côtés de Louise Michel.
Ah oui. Ah oui.
Vous l'admirez, Louise Michel.
Ah oui, je l'admire. Parce que vous savez, elle a fait 9 ans de bagne. Mon grand-père l'a connue personnellement. C'était pas son ami, mais il l'a connue personnellement. Et c'était une fille admirable. Elle était une petite institutrice. Et elle réunissait régulièrement dans les églises, dans les bâtiments, dans les marchés couverts. Elle réunissait tout ce qu'elle pouvait trouver de petits-enfants pauvres pour leur apprendre à lire. Mais c'était à l'époque un scandale que d'apprendre à lire, parce que plus on était cultivé, plus on était lecteur, et moins on était considéré courbé l'échine. Voilà, il fallait pas, c'était interdit.
Évidemment, cette effervescence politique autour de la Commune crée un enthousiasme à Paris,
oui,
qui ne va pas durer. Alors, il y a aussi une chanson presque emblématique. Je crois, vous souriez, Henriette Landry, mais je pense que vous savez,
oui,
de quelle chanson je veux parler.
Il y en a eu plusieurs, il y a eu le temps des cerises.
Oui, je pensais effectivement à Jean-Baptiste Clément.
Alors, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, que j'ai redressées dans mon livre. Le temps des cerises n'a pas été écrit sous la Commune. Il a été écrit 3 ans avant la Commune. Jean-Baptiste Clément était maire du 18e, c'était un poète. Il avait écrit ce texte pour une ambulancière. Et bon, et puis au moment de la Commune, on est venu en son honneur le chanter sur le parvis de son église. Et alors vous la connaissez, cette chanson. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant, ne prendre en oreille.
Vous l'aimez, cette chanson?
Elle est belle.
Oui.
Elle est belle, elle a une nostalgie, d'ailleurs je le mets en conclusion, j'ai dit une nostalgie qui s'évapore dans la nuit de mai, parce que c'était le mois de mai, et ça s'évapore dans la nuit, sans viva même. Ceux qui assistaient à la chanson, ceux qui la chantaient, n'ont même pas applaudi, ils considéraient que l'émotion leur suffisait.
Eh bien, nous, on va écouter Le Temps des Cerises, interprété par Cora Vauquer.
Ah bon?
Quand nous en serons au temps des cerises, et guerre signale et merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreille. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. est bien court, le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi j'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Il est question de Mathias Le Lorrain, roman d'Henriette Landry, qui est notre invitée ce soir. Elle est devant le micro de Wagon Livre. Henriette Landry, on a parlé de la Commune de Paris, 1870-1871. Alors, tous les écrivains ne se sont pas forcément rangés du côté des communards.
Non.
Vous parlez de Flaubert, oui. Par exemple. Alors, oui. Vous semblez être en colère après lui.
Oui.
Qu'est-ce
oui.
qui vous a fait,
oui,
Gustave Flaubert?
Parce qu'il avait traité les communards de chiens enragés.
C'était alors, un point de vue.
C'était son point de vue à lui. Hein. Flaubert, qui est un écrivain formidable, qui a écrit un Salammbô qui m'a toujours convenu. Il a écrit l'éducation sentimentale, il a écrit tant et tant de choses.
Madame Bovary.
Madame Bovary, bien sûr. Mais je crois que Salammbô bat les records quand même hein, de poésie. Et alors donc, j'apprécie beaucoup Flaubert, mais je n'ai pas apprécié son opinion politique contre les communards.
Est-ce que votre grand-père évoquait parfois des souvenirs de cet épisode sanglant de la Commune?
Ah oui, toujours. Et alors ma grand-mère, on était arrivée, parce que ma grand-mère c'était Madeleine, c'était son épouse, hein. Ma grand-mère a refusé tout le restant de sa vie de manger du cheval, par exemple, parce qu'elle avait mangé du cheval cru. Quand un cheval tombait, on le découpait sur place. Et chacun avait un morceau et on le mangeait des fois cru. Et ma grand-mère évoquait cette période. C'est ce qu'elle disait. Jamais de ma vie, je remangerai ou de la viande saignante ou du cheval.
Alors, vous parlez de viande saignante. La transition est, elle aussi, sanglante. Il y a l'épisode de la semaine sanglante. Alors, c'est l'épisode où, on peut dire, les communards vont être massacrés. Par les Versaillais,
c'est
les
ça.
Soldats qui, finalement, sont sous les ordres de Thiers, d'Adolphe Thiers.
C'est Thiers, D'ailleurs, j'ai entendu récemment, au poste, récemment, Bertrand Delanoë dire « Il n'y aura jamais de rue Thiers à Paris parce qu'il a tiré sur les communards ».
Alors, il faut dire que vous avez envoyé votre livre au maire de Paris, Bertrand Delanoë.
Oui, bien sûr.
Quelle a été sa réaction?
Eh bien, il m'a écrit, j'ai eu la lettre, elle est là, elle est signée de sa main, et il m'aimait bien des choses à vous, et il est très content d'avoir reçu mon livre.
Épisode fameux, c'est le massacre au cimetière du Père-Lachaise.
Voilà.
Et alors, Henriette Landry, est-ce que je peux, une fois de plus, vous demander de nous lire le passage qui est consacré donc à la Commune de Paris et plus spécifiquement donc à la fusillade au mur des Fédérés.
Voilà près d'une semaine déjà que Paris est à feu et à sang. C'était bien ce samedi dernier, sous le soleil de printemps, qu'une horde de brutes et de tyrans s'était ruée dans les rues et les faubourgs. Depuis, l'ingrate horloge a égrené ses sombres heures, frappant les six jours et les six nuits de pilonnage et d'agression. Les insurgés n'en peuvent plus. Harcelés par les Versaillais qui les fusillent et par les forts qui les bombardent. Ils sont encore 200, infiltrés dans ces rues d'infortune, serpentant le 11e, un arrondissement réputé sans richesse, sans gloire et pratiquement sans défense. Ils veulent fuir, trouver un abri n'importe où, dans ce coin où ils ont été acculés. Ils courent, ils scrutent, ils épient, tous ensemble dans le même combat. Dans un fracas d'enfer, la porte de Ménilmontant vient d'exploser, démolie à coups de canon. Plus d'issue possible. Il reste le cimetière tout proche. Hier, dernier asile des morts. Aujourd'hui, dernier refuge des vivants. C'est le cimetière du Père Lachaise. Pauvre Père Lachaise, quand il confessait Louis XIV, il était loin de s'imaginer qu'un jour futur, son jardin deviendrait un tel repère d'hommes sauvages. Oui, c'était alors un jardin. Et si le prêtre, en l'offrant, avait consenti à le voir transformé en cimetière, c'est que pensait-il? Les potées de chrysanthèmes, les gerbes de lilas et les humbles bouquets de violettes ne l'éloigneraient pas trop de sa vocation première. Une vocation massacrée. Les deux batteries d'artillerie des fédérés, en rupture de munitions, ne peuvent plus arrêter l'invasion barbare d'un millier d'assaillants. Eux sont bien armés. Thiers avait fait ce qu'il fallait. Au corps à corps, on se bat. Lutte féroce. Entre les tombes, parmi les stèles, parmi les vases profanés, les urnes renversées et les fleurs piétinées. Le respect n'est pas inscrit dans les lois de la guerre. La stèle de Musset bousculée, renversée. Plus loin, dans un autre carré, Balzac doit se demander quelle est cette nouvelle comédie humaine. Et Chopin, dans la tombe où il dort, doit se retourner. Il devra réécrire pour ses mélomanes une marche funèbre autrement plus poignante. Le sang coule dans des allées gravillonnées, des cris montent dans le soir, puis de faibles chemissements, puis des râles, enfin plus rien.
Dans le roman, Henriette Landry, dont vous venez de lire un extrait à l'instant devant notre micro, Mathias échappe miraculeusement à la bataille de Sedan. Il est sauvé également du Père Lachaise. Mais est-ce que votre grand-père était vraiment au Père Lachaise?
Oui, c'est exact. Il est allé au Père Lachaise. Et il a été sauvé par deux Versaillais. Parce que vous savez, les Versailleurs, on avait recruté. Après Sedan, Thiers avait recruté des prisonniers français en leur donnant une prime à condition qu'ils viennent se regrouper chez les Versaillais. Donc, beaucoup de ces prisonniers, pour cesser d'ailleurs leurs conditions de prisonniers et pour toucher des primes qui les arrangeaient bien, avaient cédé et étaient venus se mettre dans les Versaillais. Mais parmi ces Versaillais, il y en a la moitié qui ne voulaient pas tirer sur les Français. Alors, mon grand-père a été sauvé par deux Versaillais qui ont dit: on ne peut pas laisser cet homme, on ne tirera pas dessus, on va le sauver, on va l'emmener. Et là, on l'a emmené chez le pharmacien de la rue de Belleville.
Alors, combien de fédérés ont été tués pendant la semaine sanglante?
Qu'est-ce que vous appelez les... Au Père Lachaise, il y en a eu 250 le lendemain.
Au Père Lachaise, mais sur la semaine sanglante, est-ce qu'on peut avancer le même chiffre que Rochefort dans son journal La Lanterne? Il avance 30 000 morts.
C'est pas suffisant. Il y en a eu 30 000, mais il y en a eu au moins autant qui ont fini sur des pontons. Et il y en a au moins autant qui ont été jetés directement dans la Seine.
Après l'épisode de la Commune, il faut signer la paix avec la Prusse. Enfin, la paix, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. La France est défaite. Et là...
C'est Thiers qui va se sauver un petit peu.
Pour les Alsaciens et pour les Lorrains, c'est la fin de l'Alsace et de la Lorraine française.
Oui.
Et là, on demande aux Lorrains et alsaciens qui sont présents
à droite, sur le à gauche
sol
en France, oui,
de choisir entre,
oui,
une Alsace-Lorraine allemande ou alors de devenir français.
C'est ça. Et mon grand-père a signé son certificat d'optant. C'était un certificat qui complétait le traité de Francfort. C'était un additif au traité de paix. C'était ce qu'on appelait le certificat d'optant pour la nationalité française. J'en ai mis deux extraits dans mon livre que les archives de Metz m'ont redonné ces années dernières.
Thiassin, votre arrière-grand-père, dans le roman, dit à son fils, Mathias, votre grand-père, l'histoire, c'est notre patrimoine.
Oui.
Ne pas connaître son passé, c'est un peu perdre notre dimension d'être humain.
C'est vrai. Mais l'histoire fait partie de l'humanité. Nous sommes ce que l'histoire nous a fait. Nous sommes ce que nous nous faisons déjà nous-mêmes. Mais nous sommes ce que l'histoire nous a fait.
Outre le fait que ce roman est un livre pour dénoncer la barbarie et les horreurs de la guerre.
Je devine votre question. C'est une réflexion un peu philosophique sur la destinée humaine.
Tout à fait.
C'est ça. Je l'ai deviné, rien qu'à vous voir.
Mais vous vouliez aussi rendre hommage à votre grand-père?
Ah oui.
Vous vous sentiez dans l'obligation de lui rendre hommage à travers un livre?
Oui, parce que...
Lui qui aimait tant les livres et la littérature.
Ah oui, il aimait beaucoup les livres et la littérature. Et j'ai toujours dit, quand j'étais plus jeune, que mon papa nous parlait beaucoup de son père, quoi, donc de Mathias. Et tout le temps, je disais, si un jour j'ai le temps, j'en ferai un livre. Et j'ai trouvé le temps. Peut-être un peu tard, mais enfin, je l'ai trouvé quand même. J'ai trouvé le temps.
Alors, Madeleine, votre grand-mère,
oui,
et Mathias, votre grand-père, ont eu 7 enfants, si j'ai bien compté.
Oh, ils en ont eu plus que ça. Ils en ont eu 9. Ils en ont perdu 2 tout petits, en bas âge, parce qu'à l'époque, on perdait des enfants en bas âge. Et ils en ont eu 7. Et sur les 7, il y avait 6 garçons et une fille.
Et la fille, c'est Jeanne.
Oui, c'est ça.
Et les garçons, il y a Alfred, Henri, Jean, Nicolas, Désiré, Eugène,
oui,
et Lucien, le petit dernier. Alors, votre père, lui, il est né en 1887.
C'est ça. Mon papa était né en 1887. Et alors, je vais vous dire une petite anecdote qui va vous amuser. Comme j'avais un oncle qui s'appelait donc Henri,
oui,
vous l'avez vu,
oui,
on m'appelait Henriette. Et comme j'avais un autre oncle qui s'appelait Alfred, mon deuxième prénom, c'est Alfredine.
Pas facile.
Henriette Alfredine. Il n'est pas facile à le dévoiler quand on me demande mon nom et mes prénoms. Et j'ai toujours un peu la gêne de dire Alfredine. Ce n'est pas un mot très moderne, mais enfin, c'était pour honorer mes oncles.
Mathias, votre grand-père, meurt à 87 ans, donc nous l'avons dit en 1938.
Oui.
À l'heure actuelle, Henriette Landry, vous voyez encore des guerres, ces spectacles de guerres, de tueries, de massacres, des guerres ethniques, des guerres tribales, comme il peut y en avoir en Afrique. Comment vous vivez l'époque qui est la nôtre à l'heure actuelle? Vous qui êtes passé par des époques qui... Vous avez connu la guerre aussi, vous?
Moi, j'ai connu la guerre de 40, je suis parti à l'Exode. J'ai subi tous les bombardements de la Roche-Misaine en 44 et j'ai beaucoup souffert de la guerre. J'ai perdu un frère à la guerre d'ailleurs. Mon autre frère était dans la résistance, donc j'ai beaucoup souffert des guerres. Et je trouve que c'est l'inhumanité totale que de se battre pour un morceau de territoire ou pour une idée.
Oui, mais quelque part, l'Alsace-Lorraine en 14, la France,
oui,
l'argument des hommes politiques pour mobiliser les troupes face à l'Allemagne, c'est quand même pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine.
Ben bien sûr, d'ailleurs, on l'a retrouvée en 1914. Hein, et mon grand-père disait toujours, j'ai retrouvé l'Alsace en 1914, la Lorraine en 1914. Et quand il a vu qu'une nouvelle guerre risquait de reprendre l'Alsace-Lorraine en 1940, il a dit, je vais mourir avant de voir ça. C'est pour lui, c'était une catastrophe de revoir une autre fois sa Lorraine redevenir allemande.
Mais est-ce que Mathias a eu, après avoir connu les épisodes donc, de la guerre de 70, l'épisode de la Commune, est-ce que votre grand-père, après 1919, dans les années 20, est-ce qu'il est retourné s'installer dans sa Lorraine natale?
Non, jamais.
Jamais plus.
Jamais. Premièrement, la question, il avait tous ses enfants qui habitaient Paris, hein, et puis il était devenu... C'est ce qu'il disait, le Paris maintenant coule un peu dans mes veines. Voilà, parce que justement, comme on dit, la misère en commun unit plus que la joie, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir vécu cette misère à Paris l'avait un peu soudé à la vie parisienne. Hein, bien sûr, il aimait sa Lorraine, mais c'était toujours dans son souvenir. Et il n'y est jamais retourné. Puis, vous savez, autrefois, les communications, les avions, les voitures, ben, ça n'existait pas. Hein. Pas facile de retourner en Lorraine quand on était parisien.
Il est question du baptême bourguignon.
Ah oui.
Qu'est-ce que le baptême bourguignon, Henriette Landry?
Ah ben alors, c'était une tradition, parce que en général, les communards et les gens de gauche ne pratiquaient pas le catholicisme. Alors le baptême bourguignon, c'était un baptême qui se passait des prêtres et des cérémonies de l'Église. Alors on faisait quand même une fête. Une belle fête pour baptiser l'enfant. Alors on le baptisait, je vais vous dire, on emplissait une grande cocotte, une grande marmite de vin rouge. On tenait, en guise de fond baptismaux, on tenait l'enfant au-dessus de la cocotte de vin rouge. Tout le monde chantait et puis après on buvait le vin. Et alors l'enfant était baptisé.
Eh bien, après ces considérations bachiques autour du baptême bourguignon, il ne me reste plus, Henriette Landry, qu'à vous remercier été notre invitée.
Eh bien, voilà. Ben, je suis bien très, très contente. J'espère que j'aurai mon CD.
Vous aurez
parce
la...
que... Oui, un CD, oui.
Vous aurez la copie de l'émission après diffusion. Je vous l'enverrai à Cône-sur-Loire.
Oui, j'y tiens parce que mes enfants en profitent.
Pas de problème. Je rappelle le titre de votre roman à nos auditrices et auditeurs. Mathias Le Lorrain par Henriette Landry. Si vous souhaitez commander ce livre, vous me contactez par mail, yannick.petit@radion.fr, ou alors vous téléphonez à la radio. On vous mettra en relation avec Henriette Landry si vous souhaitez avoir
ce livre. Donnez mon adresse.
Eh bien, allez-y, Henriette Landry, donnez votre
adresse.
Alors,
j'habite au 85 route de Cour, 58-200, Cône-sur-Loire.
85
route de Cour, comme un cours d'eau. C-O-U-R-S. Oui, 58-200, Cône-sur-Loire. Et je vous dis tout de suite que des livres par correspondance, j'en vends beaucoup.
Henriette Landry, merci à vous et bonne soirée. Quelques manifestations culturelles et littéraires avant de nous séparer. Tout d'abord, un premier rendez-vous à noter, le jeudi 8 mars prochain à 19h30, c'est à la librairie Oblique 68 rue Joubert à Auxerre. Grégoire Courtois accueille Thibaut Eliroff, éditeur, et Sébastien Guillot, traducteur. Et effectivement, ces deux personnes seront donc à la librairie Oblique à l'occasion des 30 ans de la disparition de Philippe Kadic. C'est un rendez-vous certes, pour boire un verre à la mémoire de l'auteur de science-fiction le plus énigmatique du XXe siècle, Philippe Kadic, relisez-le en cette année 2012. C'est l'auteur de romans qui ont été adaptés au cinéma. Je pense notamment à Blade Runner, Minority Report, Total Recall. Il n'y a pas que Vie Artiste, certes, on parle beaucoup de Vie Artiste, mais on peut aussi redécouvrir les films qui ont été réalisés à partir des romans de Philippe Kadic. Donc rendez-vous jeudi 8 mars à 19h30, c'est à la librairie Oblique à Auxerre. Et puis une information qui ne va pas particulièrement vous satisfaire et me satisfaire, c'est que, vous le savez, l'Assemblée nationale a confirmé la hausse de la TVA en décembre dernier, notamment sur le livre. La TVA passe donc sur les livres de 5,5 à 7%. Et sachez que l'application de cette augmentation de la TVA sur le livre papier entrera en vigueur le 1er avril prochain. Et ce ne sera pas un poisson d'avril. Je voudrais mentionner une exposition particulièrement originale qui se tient à la bibliothèque médiathèque Georges Semprin de Villeneuve-sur-Yonne, et ce jusqu'au 28 mars prochain. C'est une exposition vraiment originale puisqu'elle a pour thème la vache et elle s'intitule « Oh la vache », renseignement au 03 86 87 27 88. N'oubliez pas dimanche prochain de faire une grosse bise à vos grands-mères, c'est la fête des grands-mères. Et puis n'oubliez pas du 5 au 18 mars prochain, le 14e printemps des poètes qui cette année a pour parrain Robin Renucci et qui a retenu le thème de l'enfance. Alors à cette occasion, eh bien, Radion ne manquera pas ce rendez-vous avec le Printemps des Poètes le 7 mars prochain à 21h à bord de Wagon Livre. Eh bien, nous donnerons la parole à deux passeurs de littérature. Tout d'abord Jacques Morin, directeur de publication de la revue de poésie Décharge, et Alain Quévès, enseignant, professeur documentaliste au lycée Vauban, critique, nouvelliste et surtout créateur des éditions Rhubarbe installées à Auxerre. Ce sera l'occasion de faire un point sur la poésie contemporaine avec Jacques Morin et de découvrir les œuvres poétiques disponibles donc aux éditions Rhubarbe. Et puis, toujours dans le cadre du 14e Printemps des Poètes, le 14 mars prochain, nous accueillerons à 21h dans Wagon Livre Serge Moreau qui habite La Roche-Saint-Cydroine, qui a déjà commis un grand nombre d'ouvrages. Mais lui, cette fois-ci, il viendra nous parler de quelques poètes et chanteurs répertoriés dans son petit dictionnaire atypique des poètes de langue française paru aux éditions de l'Armançon. Rendez-vous donc le 14 mars prochain dans Wagon Livre pour en savoir un peu plus sur Marie-Noël. Merci d'avoir suivi ce 61e numéro de Wagon Livre. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne fin de soirée à toutes et à tous à l'écoute de Radion. Au revoir. Thank you.